France Inter.
Quand une grande figure artistique meurt, les journalistes culturels savent qu'ils vont devoir faire une émission spéciale, et ce n'est jamais simple quand on exècre l'impudeur. Quand le défunt est quelqu'un qui vous était très proche, cela prend de surcroît une dimension irréaliste. Le cinéaste et écrivain Bertrand Blier est mort hier, à 85 ans. Il était mon père d'adoption, et sa femme Farida, sa fille Leïla et son fils Léonard, une famille choisie. Je pense très fort à eux, ainsi qu'à son autre fille Béatrice. Je ne raconte pas ça pour me mettre en avant, mais pour que les auditeurs comprennent mon rapport à celui qui m'avait demandé d'écrire avec lui le roman Fragile des bronches. L'hommage de ce soir, difficile à rendre à cause de l'émotion, ne sera pas objectif. Nous célébrerons le cinéaste, évidemment, mais surtout l'homme qu'il était, avec l'un de ses amis, le cinéaste Yann Kounen, et à distance avec le journaliste Pierre Lescure. Le plateau s'est monté dans l'urgence, et beaucoup de ses proches étaient trop émus pour venir. Nous nous tiendrons loin du pathos, car Bertrand Blier, d'une pudeur extrême, n'aurait pas apprécié et faisait immédiatement, en cas de flagrant délit mélancolique, des blagues foudroyantes. Hommage ce soir à l'un des hommes les plus drôles, originaux et intelligents que j'ai connus. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Ah oui, mes personnages sont très trouillards.
Vous êtes
trouillards? Ils sont trouillards et feignants. Ah oui, moi je suis très trouillard. Enfin, je sais pas jusqu'à quel point je pourrais pas devenir un héros. Pourquoi pas? Mais l'occasion ne s'en est pas présentée.
Enfin, un trouillard, on est inquiet, mais du genre orgueilleux.
Peut-être pas orgueilleux, non. Ambitieux, si vous voulez, mais... Et dans la mesure où, justement, on peut vivre comme mes personnages toute une existence en 6 mois ou en 3 mois, pourquoi ne pas mourir gentiment sans faire d'histoire?
C'est un mal, l'élégance.
Non, l'élégance, c'est, je crois que
c'est... Ce serait terrible si vous me le disiez.
Oui, non, l'élégance, c'est indispensable. C'est une chose indispensable. De même que l'humour. Mais je crois...
L'humour, je crois, c'est la première qualité. En fait.
L'humour, c'est la première... Ah, pour moi, oui. Je crois que quand on a de l'humour, on est fatalement...
Tout passe.
On est fatalement tendre vis-à-vis des gens. Et on est très sévère vis-à-vis de soi-même quand on a de l'humour. Et c'est une forme d'élégance, bien sûr.
C'était Bertrand Blier en 1972 dans Radioscopie de Jacques Chancel. Et pour commencer, on écoute un standard de jazz, car il aimait beaucoup le jazz, d'un musicien qu'il avait tenu à mettre dans le roman Fragile des bronches, Sidney Bechet.
Thank you.
Lina Béchette, Petite Fleur, dans la 20e heure sur France Inter. Hommage à Bertrand Blier avec vous, Yann Kounen. Bonsoir.
Bonsoir.
Tout à l'heure, dans l'archive qu'on entendait dans Radioscopie, Bertrand Blier parlait de l'importance de l'humour et de la tendresse. Est-ce que vous confirmez que les deux étaient présents chez lui ?
Oui. C'est pas forcément ce qui apparaît quand on voit ses films, mais il avait beaucoup de délicatesse envers les autres cinéastes, en tout cas, et avec les... Voilà, c'était quelqu'un de très délicat.
Comment vous êtes-vous rencontré ?
Moi, j'ai rencontré Bertrand Blier quand je commençais à vouloir faire du cinéma, par ses films, et par un film particulier. C'était ma rencontre avec lui, la première, c'était Buffet froid. Et quand j'ai vu Buffet froid... J'étais plus intéressé par la créativité, l'absurde, la poésie d'un cinéma plus anglo-saxon ou du nord de l'Europe. Et quand j'ai vu Buffet froid, je me suis dit, mais voilà, si on fait ça en France, si on peut amener cet art du cinéma dans cet espace particulier qui est le sien et qui est unique, mais si on peut faire ça, alors c'est bon de faire du cinéma en France. Donc il a été vraiment quelque part il y a des cinéastes que vous aimez, tout ça c'est bien sûr très très subjectif, mais il y a des cinéastes que vous aimez et qui sont importants dans votre décision de devenir cinéaste vous-même, et Bertrand fait vraiment partie de ces gens-là. Et après j'ai eu la chance de le rencontrer voilà, et d'échanger avec lui une fois que je faisais des films, on va dire, et ça c'est aussi un grand bonheur de pouvoir le faire.
Moi, je suis chômeur. Et vous ?
Inspecteur de police.
Ça tombe bien.
Ben voilà. J'ai un couteau dans le ventre.
Et puis, ce qui m'emmerde, c'est que le couteau, c'était le mien.
Mais c'est pas moi ! Ça peut pas être moi ! J'arrive ! J'étais pas là !
Des crimes et des assassins, je m'en farcie toute la journée. Actuellement, je suis pas en service, je mange.
Ça sent le tabac.
Et quand ça commence à sentir le tabac, ça veut dire que ça va bientôt sentir le roussi. J'aime pas beaucoup ça.
Morvandio pas mort ! Morvandio vendra chèrement sa peau.
C'est un extrait de Buffet froid qu'on entend, qui est aussi un de mes films préférés. Yann Kounen, il est sorti en 79 et ça a valu à Bertrand Blier le César du meilleur scénariste. Et c'est un film que vous avez vu en boucle. J'aimerais qu'on parle un peu de l'aspect surréaliste qui pouvait surgir à quelques endroits dans son œuvre, puisque dans ce film, ça commence quand même par Michel Serrault qui parle avec un couteau dans le cœur. Il y a un type aussi qui commandite son propre assassinat, et puis c'est quand même un chômeur, un assassin et un flic qui traînent ensemble parce que l'assassin a peur d'être seul.
Je crois que vous avez résumé cet espace complètement loufoque et poétique dans lequel il naviguait, surréaliste. Mais l'absurdité de notre monde, quand on change les curseurs et que par son imagination et par son talent d'écrivain, parce que c'était vraiment quelqu'un qui écrivait des dialogues incroyables, les situations, il vous amène dans un nouvel espace. Donc il crée un autre monde alternatif au nôtre, et dans lequel on est embarqué. Et on est embarqué, subjugué, et on avance. Et c'est comme ça que... C'est le propre d'ailleurs à tous ces films, mais Buffet froid était cette rencontre. Et oui, c'est un vrai surréaliste, absolument.
Quel homme était-il dans la vie et comment êtes-vous devenu ami ? Et après, j'aimerais bien que vous nous racontiez une anecdote sur son dernier film, Convoi exceptionnel, puisque Yann Kounen, vous étiez son assurance d'essai.
J'étais son assurance d'essai. C'est vrai que quand il m'a appelé pour me dire « Bon, écoute, j'ai pensé à toi pour mon assurance d'essai, ça serait bien si jamais j'ai un problème, je casse ma pipe, tu finisses le film. » Et j'ai saisi l'opportunité de tout de suite lui dire « Mais je ne sais pas si je vais accepter, mais il faudrait d'abord que je lise le scénario. » Mais tout ça, c'était pour lire son scénario, parce que j'ai jamais lu, en fait, ce scénario. Et c'est un bonheur de lire son écriture. Et après, je me suis trouvé en Belgique à tourner moi-même, et j'ai appris qu'il tournait ce film-là. Et donc, comme j'étais son assurance, je suis allé sur le plateau. C'était de nuit, dans une petite place à Bruxelles, et éclairé par un magnifique ballon de lumière douce. Et puis je vois Bertrand arriver doucement. Et ce qui était formidable, c'est que l'assistant est devenu blanc en me voyant. L'assistant de Bertrand est devenu blanc. Et parce qu'il n'y avait pas Bertrand sur le plateau, et il m'a vu, mais j'étais son assurance d'essai, donc lui, il s'est fait un vrai stress, et Bertrand est arrivé, et voilà. Et ensuite, il a dit une phrase, voilà, c'est vraiment d'oublier, on va dire. Et j'étais avec Stéphane Gluck, mon assistant, on a regardé, on a dit, c'est un beau ballon, c'est un beau décor. Il nous a dit, j'ai fait 19 films, et c'est mon premier ballon.
Est-ce qu'il vous a appris quelque chose? Est-ce qu'il vous a influencé?
Il m'a influencé par ses films. Et puis son attitude bienveillante, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un plateau où ça se passe bien. Il m'a appris aussi des choses sur le temps. Voilà, quand on passe du temps avec lui, on voit qu'il était dans un certain rythme, et ce rythme était très appréciable et très agréable. Et après, en fait, c'est pas qu'il vous apprend, c'est qu'il vous défie, je crois. Ces films, pour un cinéaste, c'est un défi. Vous regardez ces films et si vous aimez justement les espaces oniriques, les espaces surréalistes, les espaces absurdes, c'est un tel maître que c'est un challenge. Donc, il faut partie des cinéastes uniques, qui ont une œuvre unique, reconnaissable d'elle-même et d'une grande force, et qui vous inspirent, en fait. Voilà, vraiment.
C'est vrai qu'il avait un surréalisme et un goût pour l'absurde. Je pense par exemple, je crois que c'est dans Préparer vos mouchoirs qu'à un moment il fait apparaître Mozart en personne, qui vient dire un truc au personnage alors que ça n'a rien à voir. Et je me souviens quand on écrivait le livre Fragile des bronches, à un moment il m'avait dit ce serait bien que dans cette scène on fasse parler tel mec. Et je lui dis mais Bertrand, il n'est pas dans la scène. Et il me dit et alors ?
C'est exactement ça. Voilà, faire ce que l'inspiration, quand l'inspiration vous traverse, ne pas mettre tout de suite la raison, et c'est à chaque fois un défi. Donc je pense que c'est un grand défi pour les cinéastes, c'est de rentrer dans cet espace, il est unique de toute façon. Voilà, c'est un peu comme David Lynch, c'est des espaces uniques et personnels et poétiques et surréels.
La 20e heure, Eva Bester sur France Inter.
Ce soir, émission hommage totalement subjective au cinéaste Bertrand Blier, disparu hier, acteur, réalisateur, scénariste et surtout écrivain, puisque la première de ses œuvres était un livre, c'était Les Valseuses, avant d'être un film, et la dernière était un livre, Fragile des bronches. Je suis avec son ami Yann Kounen. Est-ce que vous avez le souvenir de films ou de livres dont il vous parlait? Je crois que vous aviez une coutume avec d'autres amis annuels.
On se rencontrait une fois par an, mais on ne l'a pas fait depuis des années, mais on se rencontrait une fois par an pendant un bon moment avec Albert Dupontel et Gaspard Noé, et on rigolait bien. Voilà, c'était... on parlait quand même beaucoup plus de cinéma que de littérature. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez unique, parce que c'est qu'avec lui qu'on a fait ça, finalement. Et voilà, je crois que tout le monde appréciait tellement... voilà, c'était vraiment quelqu'un qui nous a incité à faire du cinéma, tous, je pense. Hein, je parle... Voilà. Après, Albert a eu la chance de pouvoir tourner avec lui.
Il joue quand même le rôle du cancer de Jean Dujardin dans Le Bruit des glaçons.
Oui, ben c'est l'exemple du surréalisme. Ça, c'est une... Vraiment une tellement belle idée, incarnée par un personnage, une maladie, donner vie à ça et au dialogue intérieur, puisque après, voilà. Donc non, je me souviens même pas de quoi on parlait. Peut-être que je suis un petit peu secoué, mais ce que je me souviens, c'est de lui avec sa pipe, c'est ses rires, c'est de la douceur dans le regard, c'est des silences, c'est parler d'un coup d'un film et voilà, c'est la vie, quoi. Mais encore une fois, c'était très bienveillant et doux, et on rigolait bien.
Le journaliste Pierre Lescure a accepté de nous parler de lui. Bonsoir Pierre Lescure.
Bonsoir Eva.
Vous avez souvent interviewé Bertrand Blier.
Je l'ai souvent interviewé, ce que j'aimais, mais comme vous qui avez fait un bouquin avec lui, vous le savez comme moi, c'est quand d'un seul coup il y avait dans ses yeux sombres qui se pointaient sur sa pipe ou sur ses mains, et puis vers vous, il y avait toujours un décalage. On sentait qu'il était en train d'hésiter entre une provoque qui allait vouloir dire quelque chose et une émotion qui n'allait pas sortir. Et c'est toujours ce qui m'a bouleversé chez cet homme, dans ses bouquins comme dans ses films, c'est que même quand il découpillait une grenade un peu trop grosse pour la pièce ou pour les personnages qui étaient dans la pièce, il y avait toujours ce nœud qu'il faisait entre ses émotions, c'était à nous d'aller les chercher, et ses provocations, c'était à nous de les comprendre.
C'est vrai qu'il était très pudique.
La pudeur de cet homme, y compris quand il parlait de son père.
Oui.
Quelle merveille.
Oui, il était toujours plein d'admiration pour son père. Il en parlait comme un petit garçon jusqu'à la fin.
Et quand il regardait Farida, sa femme, et qu'il vous disait un mot sur Farida, mais c'était à pleurer.
Oui. beaucoup de ses films, et vous y faites mention d'ailleurs dans l'hommage que vous lui avez rendu sur Twitter, ne pourraient pas sortir aujourd'hui. Qu'est-ce que vous diriez à ses détracteurs ?
C'est compliqué, parce que ces détracteurs, ils ont tous les droits de regarder le film aujourd'hui et de se dire, surtout s'ils le découvrent aujourd'hui, ceux-là je les comprends à 101%, mais ceux qui reviennent sur ce qu'ils ont aimé, je les comprends moins parce que c'est comme quand Lynch disait récemment, on ressortait récemment une déclaration de Lynch qui disait « Ça m'est égal que vous compreniez pas tous mes films, mais ce que je veux, c'est que vous sortiez avec plein d'émotions. » Eh bien, une émotion même contradictoire. Si vous sortez d'un film de Blier un peu dérangé, c'est aussi la fonction du cinéma et c'est aussi ce que voulait Bertrand.
Il aimait déranger.
Bien sûr qu'il aimait déranger. Mais si vous gommez des trucs qui sont un peu trop machistes, ok, il les referait peut-être plus aujourd'hui. Il le savait, d'ailleurs, il vous l'avait dit. Mais en même temps, il n'aurait pas fait tenue de soirée. Et ce serait pas dommage de ne pas avoir fait tenue de soirée ?
Si, ce serait dommage, et surtout dans tenue de soirée et dans d'autres films, on se rend compte que les hommes ne sont absolument pas mieux traités que les femmes.
Ben, bien entendu.
Est-ce que vous avez des films qui vous ont marqué à recommander aux auditeurs ? Vos films favoris ?
On vient du Fait froid.
Ah bah oui, c'est un de mes préférés aussi.
Évidemment, sur l'écriture du scénario et de la progression tout au long du film, préparez vos mouchoirs, parce qu'il y a une palette de sentiments et de chaud et froid que je trouve extraordinaires. Les gens n'ont pas besoin ni de vous ni de moi pour aller voir Les Valseuses et se faire une opinion ou d'aller voir Tenue de soirée. Mais quand vous prenez un film comme 1, 2, 3 Soleils,
ouais, très mélancolique.
Où il s'est essayé à un autre type de relation, il y a vraiment quelque chose de tout à fait troublant et touchant dans les rapports de ces trois personnages.
Merci beaucoup Pierre Lescure.
Merci aussi Eva.
Yann Kounen, je vais vous poser la même question qu'à Pierre Lescure. Quel film en dehors de Buffet froid recommanderiez-vous aux auditeurs pour découvrir ou redécouvrir l'œuvre de Bertrand Blier ?
Tenue de soirée.
Qui passe d'ailleurs ce soir sur France 2 à 22h30.
J'avais l'impression qu'à des moments, j'avais l'impression de voir une sorte de Fellini français et provocant. Je sais pas comment dire. C'est aussi sa construction visuelle, le fait qu'il a tout fait en studio, la musique qu'il a utilisée, la manière dont il a lié tout ça. J'aime beaucoup ce film.
Et justement, en parlant de musique, elle avait un traitement particulier dans ses films, parce qu'on sentait qu'il était à la fois un grand mélomane et qu'il s'en moquait beaucoup, c'est-à-dire qu'il l'utilisait parfois comme instrument de torture. La musique, elle s'en prenait plein la tronche dans ses films.
Ben, je crois qu'il y avait chez lui quelque chose de l'ordre de l'autodérision et de l'auto... pas destruction, mais auto-dérision, c'est-à-dire se moquer de ce qu'il aimait. C'était la meilleure manière de rendre hommage à ce qu'il aimait aussi, parce que c'était son ton.
Pour terminer, je voudrais, pour lui rendre hommage... dire que c'est un grand lecteur, pour les auditeurs que ça intéresserait, sachez qu'il aimait tous les Américains, Fitzgerald, Faulkner, mais aussi Nabokov, Buzzati, Thomas Hardy, Vassili Grossman, Thomas Mann, Kundera, Beckett, Stendhal, Borésian et Roger Martin Dugard, l'auteur de la saga Les Thibault. Et moi j'ai deux souvenirs, il y en a un où il fume la pipe, puis après il se tourne vers moi et il dit « C'est beau un mec qui fume hein. ». Et puis le second, c'est qu'il est en train de manger un steak à table dans le silence, tandis que sa femme Farida, ses enfants et moi, on jacasse en tous sens. Et puis à un moment, Farida lui demande s'il veut pas être un peu plus présent avec nous et intervenir, et il dit en regardant son steak, je peux pas, je suis en rendez-vous. Voilà, pour moi ça le résume parfaitement. Et j'aimerais vous demander, à vous Yann Kounen, un souvenir ou une anecdote que vous voudriez raconter à son sujet.
Je vais être un petit peu en boucle, hein, je suis désolé, mais il avait un humour pince sans rire, décalé, le sens du rythme dans la conversation, et il jouait beaucoup comme avec sa pipe aussi. Quand effectivement il tenait sa pipe, il baissait doucement le regard, il allait nous faire sourire, nous dire quelque chose de complètement incongru. Et... ouais, enfin moi, c'est des très beaux moments que j'ai passés avec lui, et il reste tous ces souvenirs de présence et ces films.
Merci beaucoup Yann Kounen.
Merci à vous.
Pour cette deuxième partie d'émission, voici un condensé de ma première interview de Bertrand Blier. C'était dans Remède à la mélancolie, il y a plus de 10 ans, le 31 août 2014. J'étais très admirative, il avait sa célèbre poker face, c'est un euphémisme. Il était très intimidant, il n'avait pas été spécialement sympathique. Et c'est justement quelque chose que j'ai aimé chez lui par la suite, son indifférence totale au fait de plaire. Il y a un petit rituel dans cette émission afin d'être sûr que l'on puisse vous faire confiance, Bertrand Blier. Je vais vous demander de nous faire entendre votre humeur du jour, le bruit de votre âme, mais sans aucun mot, juste avec un son.
Bouf.
Ça va, je me réjouis. Alors avant de se divertir de l'inconvénient d'être né avec vous, intéressons-nous à vos rapports avec le mal du siècle. Quel rapport entretenez-vous avec la mélancolie ?
Je crois que je vis avec, c'est une vieille amie. Je pense que... Je suis un pessimiste gay, c'est-à-dire que j'aime bien rire, mais sur des choses en général noires. Donc je vis là-dedans, et c'est mon outil de travail. La mélancolie est mon outil de travail. C'est-à-dire que plus ça va mal, plus j'ai envie de rire.
Donc quoi ?
Enfin, quand je travaille, quand j'écris.
Vous la transcendez, vous l'avez apprivoisée, c'est une amie.
Une amie, faut pas exagérer. Dans le travail, oui, dans la vie, pas forcément.
Qu'est-ce qui vous rend cafardeux ?
Me réveiller déjà.
Ah, c'est terrible.
Terrible. Non, la vie est une belle chose, mais enfin avec un très mauvais scénario quand même, dont on connaît la fin à l'avance. Donc, et puis il y a un truc qui fait qu'on a les rapports nouveaux, tout le sans cesse nouveau avec la mélancolie, c'est l'âge qui vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai un certain âge avancé, et c'est vrai que quand j'avais 30 ans, j'avais des mélancolies beaucoup plus sévères. J'étais beaucoup plus noir. J'étais horriblement noir. Aujourd'hui, je suis bonasse.
Ah bon ? Là, j'adoucis la mélancolie.
Oui, parce qu'il s'est passé des choses. D'abord, il y a les enfants. Donc, qu'est-ce que c'est que les enfants ? C'est un avenir. Donc, il faut mieux toujours se tourner vers l'avenir plutôt que vers le passé. Parce que du côté du passé, on n'a que des disparus. Et du côté de l'avenir, on a des enfants qui vont grandir et qui, espérons-le, vont pas faire trop de conneries.
Qu'est-ce qui vous a rendu déprimé pour la dernière fois, Bertrand Blier, dans la vie quotidienne ?
Tout me rend de mauvaise humeur.
Ah, nous en avons pour notre argent.
Oui, je suis assez souvent de mauvaise humeur, assez célèbre pour ça. Sauf quand je travaille, par exemple, réaliser des films, pour moi, c'est une période de vacances absolument extraordinaire, la plupart du temps. Alors qu'on a l'impression comme ça que c'est un gros boulot, mais non, c'est très agréable, très drôle. La fréquentation des acteurs au quotidien m'enchante. Vous me direz, il y a des raisons probablement à ça. Et parce que j'étais le fils d'un acteur célèbre et très très comique. Et donc j'ai besoin de cette drogue-là. Donc quand je suis en tournage avec Dujardin, avec Depardieu, avec des gens comme ça, c'est le bonheur parce qu'on rit énormément.
Quand des moments de spleen vous saisissent en dehors des tournages, quelle est votre première réaction ? Vous êtes plutôt dans la fuite ou dans l'affrontement ? Vous l'embrassez, la mélancolie ?
Ben, la mélancolie, il faut savoir s'en servir. Ça dépend ce qu'on fait dans la vie. Moi, je suis auteur, écrivain de différentes sortes de choses, surtout le cinéma. Mais donc, je m'en sers. Et c'est évident que il y a quelque chose dans l'écriture d'une phrase qui fait penser tout de suite à la mélancolie. On est sur quelque chose. Moi, j'écris. Je suis encore partie des gens qui écrivent au stylo. Donc il y a encore ce côté comme ça nonchalant du stylo qui court sur le papier. Et il y a déjà de la mélancolie. Dans Il était une fois, il y a déjà de la mélancolie.
Puis dans le travail d'écriture ou même de lecture, on est impliqué une solitude de toute façon.
Il y a une solitude et puis il doit y avoir une honnêteté. C'est qu'on ne peut pas dire, quand on écrit, on ne peut pas dire que ça va bien. C'est pas possible parce que personne ne croit.
Et puis c'est ennuyeux.
Pas forcément ennuyeux, mais ça repose, c'est comme la politique, ça repose que sur ses bidons.
Bertrand Blier, l'émission va être un peu particulière aujourd'hui, car vous n'avez pas répondu à la plupart des questions. Nous avons donc dû beaucoup imaginer et enquêter afin de trouver les illustrations. On commence donc avec un chef-d'œuvre que vous affectionnez, Bertrand Blier, et qui file le bourdon à coup sûr.
Chopin, c'est toujours la passion, Eva, jamais la sentimentalité bête. Il y a tout un monde qui sépare la passion de la sentimentalité. Le prélude dont on parle, c'est le chant d'une douleur qui ne dit pas son nom. Ce n'est pas un songe creux. Il demande un jeu serein, clair, incisif. Chopin, t'es fier, sarcastique, passionné, tourmenté et très viril.
Dernier rôle au cinéma d'Ingrid Bergman qui donne la réplique à Liv Ullmann, Sonate d'automne d'Ingmar Bergman sorti en 78. Vous avez choisi ce film pour se plonger délibérément dans la mélancolie. Comment pourrait-on résumer l'intrigue ?
L'intrigue est assez simple puisque c'est une relation mère-fille doublée d'une relation d'artiste. La mère étant pianiste et la fille étant pianiste aussi mais avec moins de talent. Donc c'est un sujet, le sujet importe peu. Ce qui est important, c'est le talent du metteur en scène, et je pense que Sonate d'automne est probablement le film qui m'a le plus bouleversé depuis que je vais au cinéma. Donc je le revois pas trop souvent, mais pas tous les jours, mais de temps en temps, et je le montre à mes enfants et je le fais connaître. Pourquoi ? Parce qu'il y a une qualité de tristesse qui est rare, qui est suédoise. Hein. Ils sont doués, oui, beaucoup plus doués que
c'est
nous.
C'est très suédois, la tristesse dans ce film.
Oui, et alors, j'aime beaucoup ce film. Il y a deux films dans ma vie qui me servent de coup de pied au cul, comme je dis souvent. Il y a évidemment Sonate d'automne pour la qualité et pour la tristesse. Et l'autre, c'est La soif du mal d'Orson Welles, qui est le contraire, c'est-à-dire qui est vraiment le dynamisme absolu, avec une histoire qui n'existe pas, et des acteurs incroyables, et un film qui donne envie de faire des films. Donc il y en a un qui donne envie de pleurer et l'autre qui donne envie de faire des films. Donc avec ça, il faut toujours avoir ces deux DVD-là pour pouvoir éventuellement en voir, pas obligé de tout voir, mais le voir un quart d'heure.
Chez vous, il y a une sincérité désarmante chez les personnages. Ils ne jouent pas la comédie mondaine ou sociale. Les personnages ont accès à leur vérité, ils la disent immédiatement. Chez Bergman, la seule qui peut-être peut s'en sortir dans ce film, c'est Ingrid Bergman, puisqu'à la fin, elle retourne vers les mondanités. C'est la comédie sociale qui la sauve. Vous pensez que la vérité, la lucidité, c'est dangereux ?
La lucidité, c'est dangereux, bien sûr. Il vaut toujours mieux mentir. Il vaut toujours mieux dire qu'on passe une belle soirée.
Et à soi ? Il faut se dire la vérité ou parfois c'est...
À soi, on est seul avec soi-même et on peut penser ce qu'on veut et on dit rien.
Mais on va y revenir et on va continuer à parler de votre filmographie dans quelques instants, juste après avoir parlé du charme absolu. Vous avez quand même un peu joué le jeu du questionnaire. Pour le film, vous avez répondu n'importe quel film italien, de préférence avec Mastroianni. Je vous ai pris au mot, j'en ai choisi un, je croise les doigts pour que vous l'ayez vu.
Bébé. Bébé. Bébé, c'è un poco di freddo. Che freddo che c'è.
Allora, si sente poco bene. Oggi al circolo il termometro segnava 34 gradi.
Bebè, ma tu mi vuoi veramente bene.
Ma si capisce che ti voglio bene.
Ah, e quanto, Bebè, quanto, 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 Bebè.
1962, divorce à l'italienne de Pietro Germi, Daniela Rocca, brune incendiaire qu'ils ont réussi à enlaidir avec un monosourcil et une moustache au lit, avec un Mastroianni à contre-emploi qui en aime une autre. Vous l'avez vu ?
Ah bah oui, je l'ai vu plusieurs fois, évidemment. Non mais je pense que c'est peut-être le plus beau cinéma du monde, le cinéma italien, pour certaines choses. Parce qu'il y a cette espèce de qualité italienne qu'ils sont seuls à avoir, qui est cet humour, cette... Ils n'ont pas toujours en politique, mais enfin dans la vie, dans la rue, quand on se promène en Italie, on sent ça. Il y a un humour, il y a une légèreté, il y a une insolence. Et puis il y a une espèce d'élégance masculine. Et ça m'a frappé souvent en Italie, c'est que les hommes, par exemple, le soir, pour aller boire un apéritif, ils vont mettre une cravate. Peut-être plus aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était encore comme ça. Et je trouve ça charmant. Et Marcello Mastroianni, que j'ai eu la chance de connaître, j'ai tourné avec lui.
Dans un 2-3 soleils, et vous avez réussi à en faire un
personnage. C'était l'homme le plus séduisant que j'ai rencontré de ma vie. C'est vraiment la quintessence du charme, de l'humour, de la délicatesse, capable de grossièreté aussi. Mais par exemple, il avait deux langages. Il avait un langage pour la présence des femmes. Quand il y avait des femmes à table avec lui, je dis à table parce que c'était souvent au dîner que ça se passait après le travail. Il y avait des femmes, il était charmant, bien élevé, et dès qu'elles étaient fatiguées, qu'elles allaient dans les chambres et que nous, on allait attaquer avec des grappas, alors là, il sortait l'argot, les vilaines manières, et il disait « Elle nous casse les couilles, quand même ». J'ai eu toujours envie de tourner avec cet homme-là, mais c'était impossible parce que j'attache beaucoup d'importance au dialogue, et donc il faut que je travaille avec des gens de ma culture, c'est-à-dire des Français. C'est pour ça que j'ai jamais demandé à des Américains, genre, il y en a avec qui j'ai rêvé de travailler aussi. Et puis un jour, il y a eu cette idée d'un immigré. J'ai eu l'idée de Marseille d'abord. Qui dit Marseille dit un immigré. Alors je me suis dit, tiens, ce sera pas forcément un maghrébin, ce sera peut-être un Italien ou un Grec, ou j'en ai fait un Grec. Et donc j'ai écrit ce personnage pour lui et il a accepté de le faire. Et c'était la seule fois où j'ai pu travailler avec lui parce qu'il était quand même très, il avait quand même un gros, il parlait merveilleusement bien le français, mais il avait quand même un bel accent.
T'es encore là, toi ? Vous voudriez pas être ma mère ?
Ta mère ? T'en as pas une de mère ?
Si j'en ai une, mais justement, je voudrais bien changer.
Je ne peux pas être ta mère. Je suis noire. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens ?
Mais on les emmerde, les gens ! Je vous en supplie, madame, dites oui.
En 2-3 soleils, Anouk Grimbert, Bertrand Blier, il y a des familles d'adoption dans tous vos films. On est seul, on est paumé, on a besoin d'amour, on accepte celui du premier venu, on met nos tragédies en commun, sinon on en crève.
Oui, c'est très beau ce que vous venez de dire là. Merci. C'est vrai qu'il y a, toujours une solitude avec une quête d'amour et une quête d'un abri. Et soit bon, mes personnages se cherchent les hommes cherchent des femmes et puis ils cherchent aussi des parents, des mères d'adoption, des pères d'adoption.
Les femmes cherchent des enfants, des amants.
Voilà, et les enfants cherchent d'autres parents que ceux qu'ils ont, souvent à juste titre. Donc il y a une espèce de recherche d'abri. Je sais pas d'où ça peut venir ça, parce que j'ai pas manqué d'abri quand j'étais jeune enfant, mais il y a quelque chose sur la mélancolie là qui est inexplicable. Moi, j'ai pas fait d'analyse, j'ai toujours refusé. Donc, je comprends petit à petit, avec l'âge venant, il y a des choses que je comprends, mais j'ai pas compris grand-chose quand même.
Pourquoi vous avez refusé de faire des analyses pour pas perdre la matière brute de vos films ?
D'abord, ça m'ennuyait, et puis ensuite, le principe m'ennuyait de payer pour que quelqu'un m'écoute, alors que je pouvais le faire au cinéma ou en écrivant des livres, et en gardant l'argent pour moi, qui est pas forcément idiot.
Non.
Et puis ensuite, il y a un problème de pudeur, il y a un problème de... Mais puis cette obsession qu'on allait me prendre ma matière, oui, qu'on allait me voler ma matière.
Dans Un, deux, trois soleils, malgré tout le désespoir possible, Anouk Grimbert dit « On les nique, les tristes figures ». En revanche, vous n'avez aucun personnage joyeux dans vos films, Bertrand Blier.
Oh, il doit bien y en avoir. Si, il y a des moments où ils sont joyeux, il y a des moments où...
Très court.
Dans Les Valseuses, par exemple, qui est quand même un film plutôt décontracté, il y a des moments où Depardieu est gay, il est dynamique, c'est un TGV ambulant. Il tracte le film. Et... Alors bon, l'histoire est noire, mais il y a pire. Et il y a des moments où on rigole. On rigole aussi beaucoup dans Buffet froid, où il y a 11 morts quand même. On tue des gens, mais avec plaisir. Et ça faisait rire, pas tout le monde, mais ça faisait rire dans les salles.
Mais il y a une vraie jubilation, c'est vrai, dans les meurtres. Chez vous, la fatalité a la politesse de prévenir la maladie, la mort, les jeunes qui comptent faire leur fête à des sergents, Boigny qui va disparaître en ronde. On annonce qu'il va arriver des bricoles aux héros, ça dédramatise.
Ça dédramatise ou ça fait plus peur ? C'est-à-dire que si on dit à quelqu'un « faites attention en traversant la rue, vous allez peut-être vous faire écraser », et on traverse pas de la même manière, on a beaucoup plus peur. Et on peut se faire écraser quand même.
Je suis heureuse avec lui. Il me traite comme une reine. À moins d'un autre miracle.
Eva Bester.
Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie.
Remède à la mélancolie.
Le bonheur, ça existe.
Sur France Inter.
Vous y croyez, vous, au bonheur ?
Dans ce film, les côtelettes, les deux protagonistes séduisent la mort. Catherine Yégel, qui aura dit un peu plus tôt à Michel Bouquet, qui veut désespérément se faire emmener par elle, « Tu nous fais chier, j'aime pas les dépressifs. » Vous êtes pareil dans la vie avec les dépressifs ?
Oui, enfin, la mort ratisse large, hein, elle prend tout le monde. Hein. Pas de problème, même les emmerdeurs.
Comme beaucoup de vos films, c'est surréaliste, il y a une poésie inouïe, et quand ça devient trop lyrique, paf, quelque chose d'absurde, de grotesque, comme si vous aviez peur d'être trop sérieux, trop grave.
Ah oui, j'aime pas ça, me laisser entraîner vers le sérieux. Et surtout vers la poésie. La poésie, c'est un piège épouvantable. Il faut qu'elle soit... La poésie n'est valable que si elle n'est pas préméditée. S'il y a de la poésie qui sort malgré qu'on ait fait attention de ne pas en faire, s'il y en a quand même qui passe, c'est joli. Mais si on fait de la poésie au marteau-piqueur, alors là, c'est insupportable, il faut s'en aller.
Préparez vos mouchoirs. Je trouve que c'est votre film le plus tendre, le plus romantique.
Ah bon ?
Oui. Vous êtes tendre avec tous vos personnages.
Oui, parce que c'est un film... C'est une période où je me suis un peu laissé aller à la tendresse pourquoi? Probablement parce que j'avais fait Calmos avant, Buffet froid, les valseuses, donc j'avais déjà un peu trempé mes bottes dans la boue gluante Puis c'est un film sur un enfant, le personnage principal est un enfant, un gamin, donc il fallait y aller quand même avec un petit peu de délicatesse. Je crois que le film est sans doute, oui, relativement assez délicat, quoique le sujet est assez vertigineux quand même.
Même dans leur monologue, tous les personnages sont traités avec tendresse. Je pense par exemple à l'une des femmes qui m'a le plus émue dans ce film, c'est celle qu'on voit le moins, c'est Liliane Rovert, la fille du bar qui joue la fille à tronche de Bernadette.
Qui a la tronche de Bernadette, oui. Oui, je me souviens que les producteurs voulaient me faire couper cette scène-là. Ils me disaient, mais à quoi elle sert cette scène? Je disais, à rien. Alors, il ne faut pas la tourner. Je dis, si, j'ai envie de la tourner. Alors, je l'ai tournée et c'est une scène que j'adore. Mais bon, elle ne sert à rien. Mais il y a plein de trucs qui ne servent à rien dans les films. Mais
elle procure du plaisir, c'est quand même l'essentiel.
Oui, puis elle surprend, elle n'est pas à sa place. Elle accapare l'attention alors qu'on ne lui a rien demandé. C'est toujours sympathique, ces personnages-là.
Je suis un vieil acteur.
Ben oui, alors?
Alors c'est chiant. Là, tout c'est chiant.
Mais t'es un vieil acteur que tout le monde aime bien, que tout le monde réclame.
Pour des petits rôles. Des petits rôles, des horlogers, des mecs qui subissent, des quantités négligeables. Jamais l'histoire bascule quand j'arrive, jamais. Et poursuit son chemin. Elle s'en branle de ma prestation. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est être un grand acteur. J'ai toujours été un petit. J'aime bien, il y a les petits, il y a les grands. Chaque pierre tient l'édifice. Alors maintenant, je suis vieux. Et ce qui peut m'arriver de mieux, c'est de mourir en jouant un petit rôle. Vous vous souvenez de Raymond Pelleveau? Il était bien, Raymond Pelleveau.
Jean Carmé et Charlotte Gainsbourg, dans Merci la vie, la chose qui vous grise le plus, Bertrand Blier, ce sont les acteurs. Vous leur avez consacré un film, les acteurs qui réunissent une trentaine de grands noms jouant leur propre rôle. Et d'ailleurs, celui qu'on voit le moins dans ce film, c'est Gérard Depardieu.
Dans les acteurs, on ne le voit pas beaucoup parce que je pense qu'il y avait des considérations d'emploi du temps. Il est venu 2 heures.
Vous le mettez dans une affiche au BAD.
Oui, c'est viandé en moto.
On le voit quelques secondes seulement.
Oui. Mais je voulais pas trop utiliser Gérard dans ce film-là. Je sais pas pourquoi, je me souviens plus. Mais j'ai pas eu tous les acteurs que je voulais. Il y en a qui sont absents, malheureusement.
La disparition des acteurs, ça émeut toujours plus que d'autres artistes parce qu'ils font partie de la vie quotidienne.
Ils restent. C'est-à-dire que ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit les films, on les voit tout le temps. Par exemple, le cas de mon père est extraordinaire. Mon père, qui n'était pas une immense vedette, il a souffert dans sa carrière d'acteur de ne pas être une immense vedette.
Alors que c'est l'un des comédiens les plus populaires aujourd'hui.
Et maintenant qu'il n'est plus là depuis longtemps, je m'aperçois, et sans prétention du tout, je m'aperçois qu'il est peut-être un des acteurs les français de l'histoire du cinéma les plus populaires. Alors qu'il n'était pas Gabin, quoi. Mais il reste comme un point de rencontre pour les gens extraordinaires. Et il y a un film avec lui qui passe toutes les semaines. Des très mauvais, des très bons. Il y a de tout, mais lui est toujours on est content de le voir, quoi.
Il était jaloux de Gabin?
Ben, les acteurs sont jaloux entre eux, bien sûr. Mais il aimait beaucoup Gabin.
Il est bien, ton bouquin?
Casse pas des briques. Il tient.
Je comprends rien.
Bertrand Blier, vous avez grandi avec un père bibliophile. J'ai du mal à croire que vous ne nous ayez pas indiqué de livres. Vous lisez, vous avez lu Faulkner, vous lisez Tchekhov parce qu'il est à l'opposé de vous. Il y a longtemps, vous avez songé à adapter au cinéma L'écume des jours de Boris Vian, je crois. Et il semblerait que vous ayez cherché à obtenir les droits il y a quelques années d'un roman japonais où des femmes découpent leur mari en morceaux, Out de Natsuo Kirino, un best-seller au Japon.
Exact.
Comment vous l'avez découvert, ce livre?
Ben, j'en achète beaucoup, alors bon...
Vous lisez?
Ben oui, je lis beaucoup de trucs.
Pourquoi vous ne nous avez pas donné de nom de livre?
Parce qu'on m'a posé la question absurde, est-ce qu'il y a des livres qui pour lutter contre la mélancolie? Il n'y a aucun livre amusant. Il y a des livres passionnants, il y a des livres avec de l'humour. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir lu un livre amusant, moi. Ou alors des mauvais. Mais les grands écrivains, ce n'est pas très amusant.
Et ce livre, Out de Natsuo Kirino, il vous a donné le bourdon?
C'est le genre de bouquin formidable avec lequel on se dit, tiens, on va pouvoir faire un film policier d'horreur très amusant avec plein d'actrices. Mais les Américains avaient acheté les droits, donc j'ai appelé, je crois, 12 heures trop tard.
Ah zut.
Oui.
En parlant de prose, comment écrivez-vous ? Très rapidement, j'ai lu.
Non, j'écris pas très rapidement. Ça m'est arrivé une fois d'écrire rapidement un scénario qui était celui de Buffet froid que j'ai écrit en 2 semaines, et j'ai toujours pas compris comment. Alors quand on me pose la question, en général, je réponds aux journalistes, ou dans les débats, je dis, c'est un livre qui m'a été dicté. Alors on me dit évidemment par qui, et je réponds par le diable.
Il vous accompagne souvent ?
Ben là, il m'a accompagné, là, oui.
Vous écrivez au fur et à mesure, et il vous arrive d'avoir peur de ne pas trouver la suite ?
Ben c'est normal, ça, on ne trouve pas tout de suite.
Non, bien sûr, mais il y a des gens qui commencent par la fin, par exemple.
Ah oui, bien sûr. Non, moi je commence par la première scène, en général, et puis en général, j'ai toujours une première scène qui justifie d'écrire, et puis ensuite je m'arrête, et je reste immobile pendant 15 jours, et je note, et je réfléchis, je mène l'enquête sur cette première scène. Je me dis, pourquoi t'as écrit ça ? Ça veut dire quoi ? Qui sont ces gens ? Parce que souvent, je ne sais pas. Et à partir de là, je prends quelques notes et j'ai une esquisse d'histoire. Mais j'ai jamais la fin. Rarement.
Tiens, vous signalez qu'il est 3h du matin et que je me lève à 5h pour aller au hall. Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics.
Toi, tu vas taire ta gueule et écouter Mozart avec nous. Concerto pour clarinette.
Oui, mais moi, j'en ai rien à branler de la musique. Moi, ce que j'aime, c'est le silence.
Gerbard de Brunner. Meilleur clarinettiste du monde. Alors assieds-toi, ferme ta gueule et ouvre tes oreilles.
Mais enfin, puisque je vous dis que ce que je veux, moi, c'est dormir, c'est tout simplement dormir, je suis fatigué. Je suis un petit commerçant fatigué. Bouffé par les grandes surfaces, pourchassé par les whiskies, j'ai le fisc au cul, j'ai l'URSSAF au cul, j'ai la caisse de retraite au cul, j'ai la France entière au cul. Et je peux même pas dormir à cause de votre musique. Alors moi, j'en ai rien à foutre de votre Mozart, mais je le connais pas, ce mec-là, je l'emmerde.
Extrait de Préparer vos mouchoirs avec Céro, De Verre et Depardieu. Bertrand Blier, vous détestez les chansons en général et n'écoutez que de la musique classique, la plus mélancolique qui n'est pas Schubert comme on pense souvent, mais Mozart.
Oui, ce qui m'a amusé, c'est que ça, je n'avais pas réalisé, c'est que Michel Céro dit j'emmerde Mozart et que Depardieu, à la fin de Trop belle pour toi, dit j'emmerde Schubert. On emmerde beaucoup les compositeurs dans mes films. Hein.
Vous c'est les emmerdez.
Bien. Oui, c'est bien, je trouve. Parce qu'il nous emmerde assez. Moi, j'aime beaucoup la musique, mais c'est vrai que la musique peut faire beaucoup de mal aussi. D'ailleurs, dans Buffet froid, il y a des musiciens assassins.
Bah oui, avec les cordes.
Voilà, qui tuent en jouant de la musique. Et il y a un truc qui m'a intéressé beaucoup quand j'étais plus jeune, c'est que, étant très mélancolique et écoutant beaucoup de musique, je m'étais aperçu que finalement, quand on est mélancolique ou triste ou déprimé, il vaut mieux s'enfoncer là-dedans, mais en compagnie de quelque chose de très beau. Et donc, à cette époque-là, quand j'avais 30 ans, disons, ou 40, le Mozart me paraissait le comble de la mélancolie, parce que la beauté, cette espèce de beauté fragile, bouleversante et gaie en même temps, mais me bouleversait et me guérissait de ma mélancolie. Mais ça, ce sentiment-là m'a passé, car je n'écoute plus du tout de Mozart, très peu. Par contre, j'ai adopté une autre méthode, qui est la méthode du coup de pied au cul. C'est-à-dire qu'il y a un compositeur qui remet d'aplomb, c'est-à-dire qui remet en ligne, quoi. Mais infailliblement, c'est Beethoven.
Ah oui ? Celui dont Depardieu dit « pop-pop-pom », franchement, excuse-moi.
Non, le Beethoven est le compositeur qui remet sur pied, quoi.
Comment tu t'appelles ?
Tajdoutine.
T'es né dans la cité ?
Oui, bâtiment F, appartement 318.
Et tes parents, ils sont nés où, tes parents ?
Aux Comores.
Dans l'océan Indien ?
C'est des îles.
Tu es la chance de mon pays, Tadjoudine. Quand tu seras grand, il faudra que tu te maries avec une Française. Et puis que tu lui fasses un petit. D'accord ?
D'accord.
Tu me donnes ta parole ?
Je te donne ma parole.
Bertrand Blier, dans tous vos films, on mange des conserves dans Buffet froid, des tartines dans 1-2-3 soleils, du pâté dans Calmos, des crabes dans Préparer vos mouchoirs et toujours de la soupe absolument partout. Et pour illustrer votre mets consolatoire, j'ai choisi cet extrait d'1-2-3 soleils, puisque le petit garçon adorable qui est face à Marielle, il mange du saucisson et on ne l'entend pas. Je trouvais ça donc très chic de le passer à la radio. Le saucisson, vous en mangez souvent ?
Ah oui, bien sûr. Surtout la nuit.
La nuit ?
Oui.
Avec quoi ?
La bière.
Bière saucisson ?
Oui. Vous savez, quand on lit un livre passionnant, on dîne à 8 heures, disons à peu près, ou à 9 heures, peu importe, on lit un livre passionnant, à 1 heure du matin, on a faim. Donc à ce moment-là, c'est là où le saucisson prend sa vraie signification.
On ne peut pas être triste avec bière saucisson en pleine nuit après un super livre.
Ça, c'est un moment agréable, oui. Et on écoute la radio à cette heure-là.
Alors, question la plus profonde de l'émission, le saucisson parfait, où et avec qui ?
Bah, comme ça, la nuit, il faut être tout seul. C'est bien avec un enfant qui n'a pas le droit de se lever. Parce que j'ai des souvenirs comme ça quand j'étais petit, quand j'étais gamin, vraiment jeune, genre 11 ans, 12 ans. Mon père rentrait du théâtre, en général vers minuit, minuit et demi, et il venait voir, vérifier que je dormais bien. Et je faisais semblant de dormir. Alors il ouvrait la porte de ma chambre et il me disait « Tu dors ?» Et je lui répondais « Oui ». Et là, il me disait « Un bout de saucisson dans la cuisine ?» Alors il partait dans la cuisine, moi je mettais un peignoir, et là on se tapait du saucisson, mon père et moi dans la cuisine. Je ne buvais pas de bière à l'époque, mais lui du vin. Et c'est des grands souvenirs, ça, de faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire avec, en compagnie du père.
Eva Bester,
Docteur.
Remède à la mélancolie.
Détresse avec larmes, 210 première.
Sur France Inter.
Partez.
Votre lieu idéal, Bertrand Blier, c'est le dernier pansement de l'âme d'aujourd'hui. C'est le canal de Bourgogne dans la vallée de Louche, entre Pouilly en Auxois et Beaune. Vous y retournez en pèlerinage régulièrement avec vos enfants, car c'est le souvenir du tournage des Valseuses.
Oui, j'ai tourné une scène importante de Valseuses là-bas, dans cette vallée que je ne connaissais pas, qui est sublime, sur ce canal qui est sublime. Et j'en ai gardé un souvenir tellement enchanteur que à chaque fois, c'est sur le chemin à Paris-Marseille, hein, ou Paris-Lyon, quoi. Donc, à chaque fois que je passe là en voiture, je fais le détour, je m'arrête, ou j'emmène mes enfants, ou des copains, et je reste un quart, pas longtemps, mais je reste un quart d'heure, 20 minutes, et je connais toutes les petites routes du coin, je connais toutes les écluses, et c'est un des plus beaux endroits de France, je pense, il y en a d'autres, mais là, il y a une harmonie, une perfection, le tracé du canal, les arbres, puis la proximité du vin.
Évidemment.
Évidemment, et de la charcuterie.
Ah bah oui, comment faire sans elle ? Nous arrivons à la fin de cette émission, Bertrand Blier, dans quel état vous sentez-vous là ? Tout à l'heure, votre bruit de l'âme, c'était... Pouf ! Et maintenant, qu'est-ce que ce serait ?
Bah, c'était intéressant de discuter avec vous. Mais en fait, cette mélancolie, il faut jouer avec. C'est comme un chat qui joue avec une souris, sans la tuer. Il faut jouer avec la patte, comme ça. Bon, il ne faut pas se faire manger par la mélancolie, mais c'est un joli... J'aime bien ce mot. De toute façon, c'est un mot que j'emploie presque jamais, mais j'y ai réfléchi depuis que vous m'avez invité dans votre émission, et c'est vrai que... Ouais, on emploie plutôt le mot, des mots comme dépression, stress... Mais la mélancolie, c'est plus fin, c'est un très joli mot. Et c'est un mot féminin, c'est... Et puis ça fait penser à une femme triste...
Comme dans tous vos films.
Oui, elles sont tristes.
Toutes ?
Oui, presque toutes.
C'est vrai, les femmes sont tristes, là, en tout cas ce soir. C'était Bertrand Blier dans Remède à la mélancolie, en 2014. Merci à Yann Kounen et Pierre Lescure d'avoir participé à cette émission. Merci à Bertrand Blier d'avoir existé et fait une œuvre si singulière. Son film Tenue de soirée sera rediffusé ce soir sur France 2, en deuxième partie de soirée, justement, vers 22h30. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Joseph Ascal et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Gaspard Guy Bourget.